Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 158, et aujourd'hui on parle de copywriting féministe avec Maude Lamont.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai un épisode spécial avec une personne que j'apprécie beaucoup. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît et j'ai toujours aimé sa candeur et sa façon de voir le monde et d'explorer aussi différents types de sensibilité, sa sensibilité, la sensibilité des autres. Et naturellement, cette façon d'explorer les sensibilités, c'est quelque chose de hyper important quand on travaille dans des métiers créatifs comme les métiers de la rédaction, les métiers du design et dans son cas à elle, ben c'est le copywriting. Donc j'ai reçu sur le podcast Maude Lamont qui est copywriter et stratège féministe et je trouvais ça intéressant de explorer avec elle qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Être une copywriter féministe, être une stratège féministe. Naturellement, moi, j'ai mes définitions, j'ai mes idées, j'ai ma façon aussi de réfléchir à l'utilisation de ce terme comme titre professionnel. Hein. Ça fait quelques mois maintenant, après avoir fait ma certification et tout ça, que je m'affiche ouvertement comme coach féministe. Mais j'étais curieuse et j'avais envie de l'entendre sur qu'est-ce que ça voulait dire pour elle. Être copywriter féministe. Est-ce que c'est vraiment juste d'être consciente à l'inclusivité des genres? Est-ce que ça a un effet sur notre façon de travailler avec nos clients? Est-ce que ça a un effet sur les textes qu'on écrit ou sur les sujets sur lesquels on écrit? Bref, on va parler de tout ça dans l'entrevue, mais un petit peu sur Maude. Donc oui, elle est copywriter, oui, elle est stratège féministe, mais c'est aussi une grande de 5 pieds 9 qui est passionnée de marketing, vraiment bienveillant. C'est une tête créative, un peu beaucoup casse-cou et compétitive, j'aime ça. Elle aime rêver d'un monde sans patriarcat et contribue à le transformer un mot à la fois. Et dans l'entrevue, vous allez voir aussi, elle a fait un changement de carrière pour devenir copywriter. Et je trouve que le parcours de Maude est vraiment intéressant quand justement on commence à se questionner sur nos valeurs féministes dans un contexte professionnel et comment on se voit les déployer, s'épanouir là-dedans, comment est-ce qu'on peut créer de la cohérence aussi à l'intérieur de nous dans notre activité professionnelle quand justement on a des valeurs, on a des ambitions, puis on a aussi une vision sur ce qu'on veut léguer dans le monde. Bref, je prends pas plus de votre temps, je vous laisse avec la conversation qu'on a eue et j'espère que ça va vous donner aussi des nouvelles perspectives sur comment est-ce qu'on peut utiliser aussi le terme féministe quand on se l'approprie à différents niveaux dans notre expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Alors, voilà. Salut Maude, comment ça va? Bienvenue sur l'Ambition féminin.
Allô, je suis vraiment contente d'être ici. Honnêtement, c'est mon highlight pour commencer l'année là, qu'on fasse cette entrevue ensemble. Merci de me recevoir. Je suis vraiment très reconnaissante.
Mais oui, puis tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que ça fait quoi, un an que tu es dans mon univers d'une façon ou d'une autre, puis j'ai l'impression d'avoir suivi ton évolution dans la dernière année. Ça fait combien de temps que tu as commencé ta business?
Ben, ça va faire 2 ans.
2 ans?
J'ai rejoint Money Brand, mettons, là, notre début, ouais. La grande histoire d'amour. Money Brand, ça va faire 2 ans parce que j'avais rejoint en 2022. Je m'en souviens, je préparais, dans le fond, mon départ de l'école, là, mm-hmm. de mon ancien job, puis j'avais dit à mon chum, là, je vais faire ça comme il faut, tu sais, je veux me prendre mes bonnes bases, puis c'est là où j'avais dit, OK, go pour Money Brand. Fait que,
Ouais, c'était
Ah.
comme à l'hiver aussi. C'était-tu
Oui.
à la nouvelle année?
C'était pas
C'était-tu
loin de la nouvelle année
exactement 2 ans?
aussi.
Oui, presque, genre.
Genre, parce que
Wow!
je me rappelle autour de la Saint-Valentin, moi, à peu près, là,
OK. En
dans mes
tout cas,
souvenirs. Fait...
c'était encore l'hiver.
Oui.
2 ans, wow! Mon horloge est juste comme pas ajustée. Mais je suis contente de te recevoir parce qu'effectivement, tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir vu ton évolution, puis aussi d'avoir vu comment tu t'es positionnée vraiment spécifiquement dans le copywriting. Puis je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de personnes de comprendre un peu la transformation de passer de salarié avec une bonne job, avec genre une vocation presque que tu avais à quelque chose de complètement différent, puis faire ce switch, puis le faire d'une façon qui est très consciente par rapport à tes valeurs, puis tout ça. Donc, tu connais peut-être la tradition sur le podcast qui est que je te pose la question brise-glace. Et je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite?
Je voulais être designer de mode.
Hein?
Pendant longtemps, je faisais des. En fait, je ne cousais vraiment presque pas. J'allais voir ma grand-mère qui était en bas de la rue, puis j'y amenais, tu sais, toutes mes affaires épinglées. J'étais comme là, faut-tu coudre ça comme ça? Puis, fait que j'ai vraiment eu une grosse partie de ma vie, là. Écoute, je me suis rendue au cégep là-dedans. J'ai fait une technique en design de mode, même
Ah
pendant
ouais.
2 ans. Ouais.
Puis qu'est-ce qui est arrivé? T'as pas aimé
Ben,
ça?
c'est vraiment un milieu horrible, là, la mode.
Ouais.
J'avais comme pas. J'ai tout le temps vécu un peu dans mon monde imaginaire à moi. J'idéalisais beaucoup ça. Puis quand je me suis retrouvée à 17-18 ans au cégep là-dedans, j'ai vraiment été confrontée à un choc de valeur énorme. Écoute, tout le monde, on rentrera pas dans les détails, mais c'était comme normal presque d'avoir un trouble alimentaire au cégep dans mes amis. On était toutes là-dedans. Moi, j'ai fait des défilés de mode pour les finissants des autres années. Puis. J'ai vécu un gros choc où, littéralement, il y a une des profs qui m'a dit devant tout le monde, non, mais il m'en faut une moins grosse. Parce qu'on se mettait en ligne, tu sais, pour choisir. Ils choisissaient les mannequins en nous regardant pour chaque vêtement. Puis là, j'étais en grosse dissonance cognitive parce que je me disais, attends, de un, je suis pas grosse. Tu sais,
Ouais.
c'était vraiment, ça faisait pas de sens ce qu'elle me disait. Puis de deux, qui fait ça devant tout le monde? Là, c'est un prof qui fait ça en plus. Et j'ai été comme un week-end complet en gros état de choc. Je me disais, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais ici? Puis j'ai arrêté après ça. J'ai fini comme mes derniers cours de cette année-là. Puis j'ai des moments comme ça dans ma vie très. Tu sais, je coupe le pont. J'avais plein
Ouais.
de revues, je collectionnais les Vogue, j'avais plein d'abonnements. J'ai tout sacré sur le bac à recyclage en déménageant de ma résidence. J'ai dit, c'est fini.
Ouais.
Je veux plus ça.
Mais en même
Ouais.
temps, ce que je retiens aussi, puis ce qui est un peu dommage, ben pas un peu dommage, très dommage en fait, c'est que tu avais poursuivi quelque chose de super créatif, de super comme, tu sais, qui venait de toi, qui était quand même assez pur dans son, dans t'sais, dans ses intentions, t'sais, c'est genre, je veux créer des beaux vêtements, des belles choses dans lesquelles je me sens bien. Puis là, soudainement, ben, il y a comme la société, il y a comme, t'sais, je sais pas, genre, ça, c'est quand même intense. Puis là, qu'est-ce que tu as fait après?
Après ça, j'ai étudié au cégep. J'aime ça dire que j'ai un DEC en rien. Fait que je suis allée juste faire des cours au cégep pour arrêter d'être au cégep. C'était ça l'objectif. Donc, j'ai fait des cours en sciences humaines, tu sais, sociologie, psychologie. Je me suis loadée de tout ce côté-là, plus psychologique. Et après, j'ai fait plein de demandes pour l'université en me disant, advienne que pourra. Tu sais, je verrai où ça me mène. Parce que je savais pas du tout, en fait, à ce moment-là, tu sais, j'avais quoi, 20, 21, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais voulu être en design de mode, être là-dedans, dans ce milieu-là, toute ma vie. Puis finalement, ça me levait le cœur juste d'y penser, tu sais, fait que
Mais
c'était un peu...
ouais. Ben ça laisse un vide, j'imagine, quand t'es comme, je pensais que j'allais continuer dans cette voie-là, puis
Ouais.
finalement, qu'est-ce que je fais maintenant?
Ouais, puis j'avais un profil que je pouvais aller dans beaucoup de domaines, tu sais, j'avais des bonnes notes, j'avais tout ce qu'il fallait pour comme aller faire des grandes études, mais je ne me voyais pas. J'avais de la misère à me projeter dans qu'est-ce que je ferais après, vraiment. Et finalement, j'ai eu une bourse en enseignement. Et j'étais allée en enseignement parce que j'avais une bourse en me disant, ben, regarde, j'ai rien à perdre. Au pire, ma première session, ma deuxième session est payée. On verra qu'est-ce que ça donne.
Puis là, t'as créer une carrière en orthophonie, c'est ça, en
Orthopédagogie, ouais.
orthopédagogie, excuse-moi,
Non,
je me mélange tout
c'est...
le temps entre les deux termes, genre, puis
Ouais.
en orthopédagogie, puis comment ça s'est, tu sais, combien de temps tu as travaillé là-dedans, puis qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce pan-là de ta vie?
Oui, mais dans le fond, le bac en orthopédagogie, c'est un bac en enseignement là, avec tronc commun en éducation. Donc, on fait 4 ans. Fait que, tu sais, c'est 4 ans avec des stages à chaque année. Fait que je les compte dans mon expérience de travail là-dedans. J'ai commencé à faire de la suppléance rapidement aussi. Puis j'aimais ça, être en contact avec les jeunes. J'aimais ça, le partage de connaissances. J'aimais ça, créer cet espace-là pour les enfants parce que souvent, en orthopédagogie, c'est difficulté d'apprentissage. Et souvent, c'est des enfants qui n'ont pas eu la même facilité à l'école, pour qui les liens ne se créent pas naturellement. Oui, il peut y avoir des troubles comme dyslexie, dysphasie, peu importe. Mais tu sais, la base, c'est que c'est des personnes souvent qui n'ont pas les conditions nécessaires pour apprendre dans un milieu de base éducatif, une école standard. Et j'ai fait ça pendant, c'est ça, 4 ans de bac. Après ça, 2 ans, presque trois de différents contrats. Puis je suis tombée enceinte. Puis quand je tombe enceinte, ils m'ont retirée parce qu'en milieu scolaire, selon tes anticorps, peu importe, il y a des maladies que tu n'es pas protégée qui peuvent être à risque pour l'enfant. Fait que j'ai été retirée, arrêtée pendant mes 2 grossesses, parce que mes enfants sont rapprochés. J'ai été 3 ans vraiment maman à la maison, à me dire, je vais juste faire ça, c'est correct, je voulais pas retourner travailler. Je voulais juste être dans ce moment-là avec eux, puis ça me fascine encore de voir, tu sais, l'évolution d'un humain passer de mini à tout ce qu'ils apprennent, puis découvrir à quel point j'ai rien à faire là-dedans. Dans le fond, c'est eux qui apprennent par eux-mêmes, puis on est juste là, t'sais, pour créer un espace pour eux, dans le fond, c'est tout, là, pour offrir les conditions, mais moi, je peux pas, c'est pas moi qui apprends mes enfants à marcher, là. Ils vont faire ça tout seul, ils ont pas, je leur ai pas enseigné à parler. Puis là, je me disais, OK, si je vais perdre ça en retournant en milieu scolaire, parce que je vais aller m'occuper d'enfants des autres. Puis là, mon cerveau, encore une fois, grosse dissonance cognitive. Je peux pas croire que je vais aller parquer, puis je le dis avec beaucoup d'exagération, mais je me sentais comme ça. Je vais aller parquer mes enfants dans une garderie pour aller m'occuper des enfants des autres, donc parquer à l'école. Ça marchait pas dans ma tête, je suis pas capable. Mais je voulais pas quitter complètement l'enseignement avant d'avoir réessayé, parce que je savais pas quel prof, quel professionnel j'étais maintenant que j'étais maman. Je l'avais pas vécu. Fait que j'ai comme fait un deal avec mon chum. On s'était dit, OK, je vais essayer. Puis en même temps que je me préparais à retourner en milieu scolaire, je suis tombée sur une annonce d'une formation en rédaction web. J'ai commencé à... Dans le fond, c'est ça, la petite graine, tu sais, qui a commencé là, en même temps. Fait que là, je savais déjà, dans le fond, en retournant en milieu scolaire, que c'était pas vraiment là que je voulais être. Mais je voulais me prouver que c'était pas juste... C'est que c'était pas juste parce que j'étais tellement bien dans mon rôle de maman que je voulais pas faire d'autres choses, mais que vraiment, j'étais plus bien en scolaire. Puis, ben, quand je suis revenue, on était en plein encore dans les adaptations de la pandémie avec, tu sais, plusieurs restrictions. On a eu l'école à la maison pendant quelques semaines. Fait que ça m'a pas redonné envie d'être là, pas du tout, là. La
Ben non, c'est
condition,
clair.
ouais,
Puis là,
non, non,
maintenant,
c'est...
ils sont tous en grève. Il y a comme des super mauvaises conditions pour les profs. Tu sais, c'est vraiment une vocation, je trouve, travailler dans des écoles. Puis, je sais pas, genre, j'ai beaucoup de respect, mais en même temps, c'est hyper abusif. Puis, tu parlais de la mode tantôt, est-ce que c'est un milieu très abusif pour les femmes? Mais je trouve que l'éducation, c'est un milieu hyper abusif pour les femmes aussi, parce que c'est elles qui sont
Totalement.
disproportionnellement en charge de l'éducation de notre nation et en même temps, genre, qui est tellement dévalorisée au niveau économique puis social aussi, là.
Mais ben oui, puis tu sais, quand tu réfléchis à ça, puis nous, on est beaucoup là, dans mon bac à avoir eu cette réflexion-là. C'est des filles qui étaient dans la même cour que moi, qui n'étaient pas encore parents avant. Puis là, tu te dis, OK, c'est parfait, je vais être prof, tu sais, je vais avoir mes vacances d'été, je vais pouvoir être là pour mes enfants, je vais finir de bonne heure, etc. Là, tu te retrouves en milieu scolaire où, dans le fond, en réalité, tu travailles tout le temps. Tu travailles le soir, tu corriges le soir, tu réponds à des courriels de parents, tu gères des dossiers tout le temps. Tout le monde t'en demande tout le temps plus. Moi, j'étais orthopédagogue, fait que, tu sais, oui, il faut aller aider les élèves en difficulté, mais les difficultés sont de plus en plus grandissantes. Avec la pandémie, c'était horrible dans les écoles, tu sais, au niveau apprentissage de la lecture, apprentissage de l'écriture. le retard n'a pas fini d'être rattrapé, là. On en a
Ouais.
pour un moment. Fait que les besoins grandissent, on te demande d'en prendre plus parce que tu veux aider, puis tu fais ça par vocation. Fait que toi aussi, tu veux en prendre plus pour aider.
Ouais.
J'arrivais chez nous le soir, plus patiente pour mes enfants, à bout de tout. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'on nous a vendu ça, l'espèce de vie d'être prof comme parfait pour la conciliation travail-famille, alors que c'est juste horrible. Complètement. T'sais, c'est pas vrai là, que c'est facilitant parce qu'il faut que tu sois disponible pour tes enfants, pour les enfants des autres. Tu travailles tout le temps, ta charge mentale est décuplée. Fait que j'étais vraiment révoltée. Honnêtement, j'étais dans l'école, puis j'en parlais à mes collègues. J'étais comme, ça n'a pas d'allure, je veux m'en aller. Je suis plus bien, je resterai pas. OK.
Ouais.
Ouais.
Donc là, rédaction web, puis qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Puis moi, j'ai une formation aussi en rédaction web, fait que c'est drôle parce que je parlais de ça avec mon conjoint l'autre fois que j'en vois de plus en plus maintenant. Tu sais, c'est moi, je l'ai faite à l'Université de Montréal, mais là, maintenant, tu sais, il y en a plein que tu peux faire en ligne en 6 semaines, des choses comme ça. Fait que
Ouais.
toi, pour toi, ça a été quoi le pourquoi ça et pas d'autres choses?
Ben, j'avais tout le temps cultivé le rêve là, secret, puis je le cultive encore d'un jour écrire un livre. Puis, tu sais, j'ai toujours adoré écrire. Moi, j'ai tout le temps process mes émotions beaucoup avec l'écriture. Tu sais, j'ai tout le temps écrit beaucoup dans mes journaux. Puis, les chansons, j'écoutais tout le temps les paroles. Puis, je voulais. Selon ce que j'ai besoin de vivre comme émotion, tu sais, je vais aller chercher une chanson qui me fait vivre ça à cause des paroles. Fait que pour moi, les mots, c'était déjà très puissant dans ma vie. Puis là, c'était vraiment juste l'appât de l'intérêt, tu sais, de dire, OK, je peux travailler évidemment quand je veux. C'est le classique qui nous
Ouais.
attire tout au début. Mais aussi, je peux le faire avec quelque chose que j'aime faire vraiment, puis qui est naturel pour moi. Fait que tu sais, j'étais 100% en surconfiance. J'étais comme, je suis bonne pour écrire. Il y a des gens qui payent des gens pour écrire. Je vais faire ça. C'était un peu aussi l'énergie, je pense, de dire, il faut que je fasse autre. Il fallait que je trouve une
Ouais.
solution. Je ne pouvais pas juste arrêter complètement de travailler. Financièrement, ce n'était pas comme une option là, de dire qu'on vivait à juste un revenu. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose pour contribuer aussi, puis pas mettre toute cette pression-là sur mon conjoint, que moi, j'allais aimer, puis qu'elle allait. Fait que c'était, pour vrai, c'est un concours de circonstances, tu sais, qui. C'était pas. Ouais, c'était pas.
Ouais, puis ça, c'est une question, puis je sais pas, c'est un peu, je pense du coq à l'âne, mais je réfléchis à quel point c'est genré aussi la rédaction web, dans le sens qu'il y a disproportionnellement beaucoup plus de femmes qui font ça, puis je suis pas encore 100% arrêtée sur la raison pourquoi. Mais tu sais, c'est sûr que en t'entendant, puis en réfléchissant à mon expérience, puis à celle que je vois chez d'autres personnes, tu sais, il y a cette vision d'être, tu sais, à la fois plus replié dans ton monde et pouvoir quand même contribuer économiquement, tu sais, de participer économiquement, mais sans rentrer dans les structures puis les systèmes qui, tu sais, à tout point de vue, sont pas adaptés pour nous, pour notre vie, pour
Mais non.
notre vie de famille, pour, tu sais, toutes ces choses-là. Fait qu'il y a quelque chose de... Je sais pas encore exactement les raisons pourquoi je veux dire ça. Puis je veux pas dire que c'est genré parce que c'est fondamentalement genré, mais c'est définitivement vrai qu'on voit plus de femmes dans ce milieu-là que d'hommes, là.
Je pense que c'est une façon, c'est de la même façon que il y a des métiers qui sont faciles à apprendre pour un homme parce que on se fait rapidement dire qu'on est habile dans ces choses-là. Ben, en tant que femme, souvent on est socialisée, tu sais, à dire qu'on est bonne en français, puis que, tu sais, ça existe encore là, cette socialisation-là où c'est ça qui est valorisé. On parle beaucoup des femmes qui ont de la facilité avec le français, avec les mots. En plus, c'est empathique. Fait qu'il y a quand même à quelque part. Oui, il y a la liberté, tu sais, de dire qu'on gère notre horaire, mais c'est évident que c'est plus accessible, je pense, ou en tout cas, on se sent plus confiante d'essayer de faire ça que de dire je m'en vais, je ne sais pas moi, devenir manœuvre en construction ou peu
Ouais,
importe. Tu sais, je fais un
maçon ou
méga
quelque chose, là.
cliché,
Ouais.
mais c'est ça, parce qu'on ne se fait pas valoriser à dire ah, oh, mais tu es tellement habile de tes mains, puis tu es tellement forte, puis tu sais, c'est pas
Ouais,
ça
ouais,
qu'on se
ouais,
fait dire
ouais.
en grandissant. Fait qu'il y a ça, veux, veux pas, qui
Ouais,
rentre en ligne
t'écris
de compte,
bien, hein, je
là.
me rappelle tellement,
Ben
genre, mais... Puis des
oui.
fois, t'es comme, est-ce que j'écris bien dans le sens ma calligraphie ou est-ce que
C'est
j'écris
ça.
bien avec les mots? C'est quoi, j'étais là, je suis comme, de quoi
Oui,
tu
parce
sais,
que
les deux sont
aussi,
vrais?
les gars qui n'ont pas de belle calligraphie, ils n'ont pas de belle pub. Tu sais, comme on exagère, mais c'est ça, c'est des
Ouais.
clichés qui sont encore vraiment présents, là.
Ouais, vraiment. Puis c'est drôle, hein, parce que ça, c'est très ancré dans l'éducation qu'on nous donne, puis toi qui viens du milieu de l'éducation, où
Ben oui.
ces stéréotypes-là sont vraiment très cristallisés aussi dans l'esprit de l'enfant, puis deviennent de plus en plus définitifs aussi dans son
Ouais.
développement, je trouve, t'sais. Même si en tant que parent, tu peux être assez libre et essayer d'être conscient par rapport à ça, je trouve que quand tu rentres à l'école, c'est presque genre le cocktail Molotov de, t'sais,
Ben oui,
genrification.
les stéréotypes sont extrêmement présents. T'sais, juste regarder encore c'est quoi qui est enseigné dans les livres d'école. Le jour où les livres d'histoire vont être écrits par des femmes, on pourra peut-être penser qu'on leur donne une perspective qui est plus ouverte à tout le monde. Mais en ce moment, l'histoire est encore racontée puis écrite par des hommes.
Ouais, puis les femmes sont secrétaires, puis les hommes sont banquiers,
Oui.
là. Fait que,
Qu'est-ce que tu veux? On va pas se le cacher, là, tu sais.
ouais.
C'est très présent encore, là.
Puis, fait que donc là, il y a eu comme cette voix de la rédaction web, t'as fait un pacte avec ton chum que t'allais essayer ça, voir ce qui allait se passer. Puis entre, mettons, la rédaction et le copywriting, hein, tu sais, parce que là, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu nous racontes, puis c'est rare que je fais des réflexions chronologiques comme ça, mais je pense que dans ton cas à toi, c'est intéressant de voir, tu sais, toutes les moments clés où il y a eu, OK, je vais prendre ça, par exemple, le côté créatif, mais tout le reste, je rejette. Je vais prendre ça, puis tout le reste, je rejette. Fait que là,
Ouais.
mettons, il y a eu la rédaction web. Est-ce que ça a été quelque chose aussi que t'as rejeté, entre guillemets, ou le copywriting, c'est juste, tu sais, là, après ça, t'étais plus en train d'affiner un peu la direction dans laquelle tu voulais t'en aller.
Ben, en fait, j'en ai fait, tu sais, quand j'ai fait de la rédaction web, j'ai commencé à faire quelques petits contrats, puis c'est correct, j'étais contente. Puis, tu sais, les premiers moments, je trouve, où tu gagnes de l'argent pour ton écriture ou pour quelque chose comme ça, que tu pensais même pas être capable de générer de l'argent avec ça. T'sais, peu importe c'est quoi le montant que tu fais, c'est vraiment satisfaisant, puis c'est vraiment comme gratifiant. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a rien que je déteste le plus qu'exemple écrire un article de blog. Vraiment, là, t'sais, c'est long, c'est pénible, j'avais pas de plaisir à faire ça. Puis moi, en parallèle de, t'sais, mon évolution scolaire, tout ça, j'avais toujours travaillé dans des entreprises, des petites entreprises, dans le service, dans la vente. Et j'avais toujours baigné là-dedans. Ma première job, c'était pour la papeterie de mon grand-père, où, tu sais, j'ai appris qu'il fallait dire au revoir et bonjour, puis pas mâcher de gomme, puis, tu sais, comme, ça arrive 15 minutes d'avance. Tu sais, j'ai commis tout le temps le service aux clients dans mes jobs. Après ça, j'ai travaillé dans une petite entreprise de vélo, de sport, puis tout ça, puis j'ai tout le temps eu vraiment du fun. Tu sais, quand j'ai lâché... L'enseignement, au début, je me disais, si je pouvais juste retourner vendre des vélos, je serais-tu bien? Tu sais, je ferais la paix, puis comme
Nice,
parler
je te
toute la
vois.
journée avec du monde, puis vendre, tu sais. Puis j'avais la facilité à faire ça, à faire des ventes. Puis quand j'ai travaillé dans ce domaine-là aussi, c'était pas des femmes qui vendaient les vélos. Les filles étaient à la caisse, puis plaçaient les vêtements, là. Puis
Ouais.
moi, j'étais comme, non, non, je vais vendre des vélos moi aussi. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable. Fait que ça m'avait déjà connecté à l'action de vendre, tu sais, puis j'aimais ça. On en a parlé, je pense que c'est Alexandra Martel, on parlait l'autre fois, c'était comme, je pense que t'aimes trop vendre. Mais c'est vrai, j'aime ça, c'est pas comme quelque chose qui me répulse, tu sais. Fait que je me dis, OK, je suis bonne pour écrire, j'aime ça vendre, puis c'est plus payant, on s'entend à écrire en copywriting que juste écrire des articles de blog, ça a une valeur monétaire qui est plus grande. Je vais essayer, tu sais, je vais le faire, je vais être capable d'apprendre ça aussi. Fait que j'ai eu... Dans le fond, c'est une histoire de confiance en soi, mon affaire. J'étais comme, c'est beau, je vais apprendre, je suis capable. Puis j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis plus je prenais des contrats, plus ça allait bien, puis plus les gens étaient satisfaits de ce que je faisais. Et j'étais comme, OK, il y a vraiment, je pense que je suis en train de trouver ma zone, tu sais, où je suis créative. Tu sais, moi, j'ai découvert aussi, là, avec toi, là, quand j'ai commencé Money Brand, l'Ikigai, mais là, j'étais comme, OK, je pense que je suis en train de me placer, là. Ça répond à mon besoin d'être créative. Je suis capable de faire plus d'argent avec ça. Les gens veulent payer pour ça. Fait que je trouvais tranquillement cette zone-là.
Puis là, il y
Ouais.
a eu le côté féministe qui s'est ajouté, c'est comme la petite cerise sur le sundae qui
Ouais.
s'est ajoutée à la fin, là, parce qu'au début, t'étais pas nécessairement, tu sais, t'étais probablement féministe déjà, mais
Ouais,
pas
j'en parlais pas.
assumée, je dirais, genre, je sais pas comment tu veux le dire, là.
Ben, en fait, c'est que quand j'ai commencé à créer du contenu, c'est parce que ça a été ça un peu, là, je voulais créer du contenu là, pour aller chercher des clients de façon organique. Puis, tu sais, on parle de quoi au début? On crée du contenu, on sait pas trop, on teste, on essaie de trouver c'est quoi notre message à nous et tout. Puis, je me rendais compte qu'au cœur de tout ça, ce qu'il y avait, c'est tout le temps le fait que j'avais envie d'aider les gens à se sentir vus, entendus, reconnus, compris. Puis, je le faisais à travers, oui, l'écriture, à travers les textes de vente, mais qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand là-dedans, c'est que souvent, c'est vraiment plus dur pour les femmes de faire ça, de se vendre, de prendre cette posture-là, d'être confiante en parlant de ses services. Puis ça m'a ramené vraiment à ce que moi, déjà, je vivais, tu sais, puis que j'expérimentais en tant que femme, de dire que notre socialisation, elle affecte complètement notre expérience de la vie, tu sais, puis que on n'a pas les mêmes chances qu'un homme qui se lance en entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment évident. Fait que ça a été comme un cumul de choses. Puis j'ai commencé à en parler. Puis plus j'en parlais, plus je me sentais bien d'en parler. Puis plus je reconnaissais que c'est un message que les gens avaient besoin d'entendre, que les femmes avaient besoin de recevoir. Puis cette année, tu sais, je pense, mettons, 2023, là, ça a été mon année où vraiment je me suis mis de plus en plus à juste dire comme « Fuck it, tu sais, ça te fait peur, tu trouves ça intense mon affaire, mais tant pis, là, c'est pas grave. Là. Moi, c'est de ça que je parle. » Puis les clientes que j'ai eues, ça a été vraiment des clientes que justement, il y avait besoin d'entendre ça. Tu sais, qu'il y avait besoin de se faire dire non, c'est vrai que c'est pas facile, puis que oui, c'est vrai qu'il y a des obstacles différents quand t'es femme, puis que t'essaies de fonder ton entreprise, puis qu'on peut-tu en parler, puis assumer qu'on a des blocages différents à déconstruire. Puis je pense que l'écriture, autant ça peut être thérapeutique, personnel, mais de prendre ça, puis de le diffuser, puis de transmettre son message. Ça a été aussi thérapeutique pour moi, puis ça allait pour mes clientes parce que elles reprennent leur pouvoir, tu sais, puis leur fierté de leur service, puis ça les replace dans une posture de pouvoir puis de puissance qu'on a, mais qu'on n'assume pas, je pense, souvent en tant que femme.
Ouais, puis là, c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est comme, OK, copywriting, by the way, je suis vraiment d'accord avec toi, puis je pense que c'est le fondement aussi de la façon dont j'enseigne le marketing aussi, de dire comme, oui, il y a toutes les affaires que tu peux apprendre, funnel, etc., que tu peux lire comme gratuitement sur Internet,
Eh oui.
mais c'est quand tu commences à les appliquer que là, tu arrives à tes propres résistances, puis à tes propres conditionnements, puis à tes propres, tu sais, tout ce qui arrive comme ça. Fait que, tu sais, puis je pense que la verbalisation à travers le marketing lui-même, à travers les brands personnels, puis tout ça nous permet de se réapproprier nos histoires, puis tout. Fait que je pense que c'est super important ce que tu fais. Puis là, ce que je voulais te poser comme question, c'est plus au niveau, ben, quand tu dis copywriting féministe, est-ce que, c'est parce que moi, pour moi, c'est vraiment la démarche plus en background, tu sais, en behind the scenes, tu sais, comme pendant que tu écris la posture que tu prends, tu sais, puis de le voir de façon féministe. Mais toi, quand tu dis copywriting féministe, est-ce que, tu sais, c'est dans les sujets qui sont abordés? Est-ce que c'est vraiment toi, ton message? Est-ce que c'est la façon que tu travailles avec tes clients plus que tu les accompagnes au niveau service client? Tu sais, est-ce que tes clients doivent être féministes et avoir, tu sais, mettons, si c'est une animalerie, est-ce qu'on va vouloir travailler avec une copywriter féministe et si oui, pourquoi? Tu sais, toutes ces petites questions-là de savoir, ben, ce positionnement-là, il contribue où dans le travail que tu fais avec tes clients?
Mais il contribue à plusieurs niveaux parce qu'il contribue dans, tu sais, mon savoir-être, comment je suis avec elle. Ce qui fait que souvent, j'ai l'impression que ça leur donne la permission, tu sais, d'aller faire les actions qu'elle ferait pas sinon, là, quand je suis. Parce que je fais beaucoup d'accompagnement aussi avec mes clientes. Je fais pas juste écrire pour elles. Souvent, je les accompagne à créer leur contenu. Je pense qu'avant de te mettre à déléguer ton copywriting à quelqu'un, il faut que tu te sois trempé les mains dedans et que tu aies c'est une belle compréhension de ton message toi-même, là, parce que sinon ça dérive. Le déléguer avant d'être sûr de ce qu'on veut dire, ça fait un positionnement qui est flou, tu sais, puis qui est moins moins représentatif de ce que toi tu veux transmettre. Fait que ça paraît à ce niveau-là. Ça paraît aussi dans la façon qu'on communique parce que en tant que féministe, ma conscience du message est différente. T'sais, on parle tout le temps, là, ça a été bien la trend là, de faire du marketing bienveillant, là, mais mon opinion là-dessus, c'est qu'on a juste compris que ça marchait de parler des émotions, puis genre de faire réagir les gens. Là, on fait du marketing. T'sais, c'est pas du marketing bienveillant. Le trois quarts du monde qui font, c'est qu'ils nous font vivre des émotions. Mais est-ce que tu fais vivre des émotions dégueulasses à ton monde ou t'sais, puis c'est là où je trouve que quand on parle de marketing féministe, ben c'est la conscience de dire, OK, mais je le fais avec une vraie empathie. T'sais, puis oui, je parle des peurs, des besoins de mes clientes, mais je ne le fais pas en mode Allô, je suis le sauveur et tu es la princesse en détresse. T'sais, ça change le narratif parce qu'on place les clientes de mes clientes, si on veut, dans la posture où elles aussi sont dans leur pleine puissance. T'sais, je te redonne le pouvoir de tes décisions. Puis dans la façon de communiquer, ben, le message qu'on t'envoie, c'est que toi, tu as le potentiel, t'sais, d'arriver à ton objectif X ou Y, puis que nous, on est juste là en soutien, en rôle de soutien. Fait que ça change ça aussi. Puis pour répondre à ta question, pour l'animalerie, ben ça dépend. T'sais, comme j'ai pas de clients beaucoup qui sont dans les B2C, là, qui sont avec. Mais c'est évident qu'il y a des domaines que je touche pas à cause de ça. C'est comme quelqu'un qui vend. Qui est naturopathe, mais que dans le fond, il vend des régimes ou de la perte de poids, ou tu sais, comme ça, c'est absolument non. Puis oui, je rentre dans le féminisme parce que pour moi, tout ce qui est diet culture, c'est très patriarcal aussi, là. Tout est interrelié, là. Fait que, tu sais, ça fait un filtre, je pense, dans les personnes. Puis inconsciemment, je pense que je répulse aussi peut-être d'autres genres de clients, mais
Ouais,
tant
c'est
pis, là,
clair.
c'est pas.
T'as-tu déjà eu des hommes? Je suis comme curieuse. Y a-tu déjà des hommes qui ont voulu travailler avec toi?
Oui, mais de moins en moins. Je ne sais pas
OK.
pourquoi. Non, mais c'est une question d'ego, là. Je pense qu'il y a des hommes qui ne sont pas encore prêts à avoir des femmes à être dans ce rôle-là. Et d'être assumées puis d'être assertives, là, vraiment. Donc, ces personnes-là, pour qui c'est inconfortable, ne vont pas venir travailler avec moi. Puis, je le comprends. T'sais, ça ne serait pas une belle relation d'un côté ni de l'autre. Mais après ça, tu sais, je refuse pas de clients parce que selon ce qu'ils ont entre les jambes, tu sais, c'est pas ça n'a pas
Non,
rapport
je...
pour moi, là. Ouais.
Est-ce que tu vois une différence entre du marketing éthique ou utiliser le terme éthique versus féministe?
Ben, c'est parce que pour moi, l'éthique, tu sais, je l'utilise quand même. Je parle souvent de marketing éthique et féministe. Mais éthique, c'est différent parce que c'est pas quelque chose sur lequel tout le monde s'en. T'sais, j'ai l'impression que le baseline n'est pas le même. Il y a des choix qui sont éthiques selon ton système de valeurs, ton système de croyances, puis qui ne seront pas pour quelqu'un d'autre. Versus, t'sais, féministe, ben, pour moi, le baseline est pas mal plus clair qu'on a un peu tous le même objectif d'aller aliéner le plus possible le patriarcat pour qu'on puisse retrouver dans un système de. Pas chance égale, on se rendra pas à ça, mais tu sais, au moins être plus équitable pour tout le monde.
Je me demande si, ou tu sais, à quel point les gens comprennent ton positionnement en termes avec, mettons, plus des techniques, genre de l'écriture inclusive ou écrire au féminin, tu sais, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de collusion entre, tu sais, on pense féministe, donc on pense pour femme, on pense féministe, donc on pense au féminin, on pense, tu sais, il y a comme ces petites choses-là, puis est-ce que pour toi, ben tu sais, selon ce que je comprends aussi, c'est pas nécessairement pour femme ou au féminin, mais c'est vraiment plus une idéologie, puis mettons, comment est-ce que l'écriture inclusive, ça rentre dans ta pratique ou dans ta façon, genre, de travailler avec tes clients?
Ben, pour moi, tu sais, l'écriture inclusive, c'est beaucoup, c'est un processus, c'est une démarche. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, on est comme, oh mon Dieu, inclusif, point médian, c'est pas lisible. Tu sais, on a comme des idées très arrêtées sur c'est quoi. Mais quand je travaille avec mes clients, clientes, souvent, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu sais, c'est quoi ta vision, comment tu veux communiquer? Est-ce qu'on va vers l'écriture inclusive ou est-ce qu'on va au féminin? Il y a des domaines où ça se prête vraiment bien de juste dire j'écris au féminin, puis that's it, puis c'est correct. Puis il y a des entreprises, des entrepreneurs qui préfèrent utiliser l'écriture inclusive. Puis moi, je m'assure d'être alignée avec ce que les personnes veulent, mais aussi de développer un peu la conscience que, tu sais, l'écriture inclusive, c'est pas juste un point médian, c'est vraiment d'essayer d'inclure tout le monde le plus possible dans notre façon de communiquer. Est-ce, comment je peux utiliser des termes qui sont épicènes à la place, tu sais, pour faciliter justement la lecture pour tout le monde? Et moi, c'est ma démarche le plus possible, d'essayer d'être vers l'écriture épicène, juste pour arrêter de tout le temps être dans la dichotomie des genres où on veut tout le temps se séparer. Puis tout ça, dans le fond, selon moi, il est un peu là le problème avec la langue française, c'est qu'on... C'est pas la même chose pour toutes les langues en plus, mais c'est qu'on est vraiment dans une séparation féminin-masculin. On attribue des caractéristiques différentes en plus aux mots selon qu'on l'utilise au féminin ou au masculin. Alors que plus c'est neutre, puis plus on arrête de charger, tu sais, les mots de plein de sens qu'ils ne devraient pas avoir nécessairement, là. Et c'est un peu la réflexion que j'essaie d'avoir. C'est moi, sur le
Puis est-ce
plan
que tu le fais
personnel.
avec tes clients? Tu sais, est-ce que tes clients, ils viennent souvent avec, mettons, déjà une réflexion autour de ça, ou ça fait partie de ton service de les aider à réfléchir à ça pour leur propre business aussi, j'imagine, tu sais?
Oui, bien souvent, on fait la réflexion parce que je pense que c'est une réflexion qui est difficile à faire tout seul. Puis, il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement, tu sais, de débats autour de ça que c'est facile de se sentir perdu puis de tomber dans OK, je vais faire inclusif pour faire plaisir à tout le monde, tu sais, parce que je veux pas comme créer de tension ou quoi que ce soit. Mais ça demande une vraie réflexion, tu sais, puis ça demande d'en discuter. Fait que souvent, on prend le temps d'en discuter puis on fait le shift. Ça ne va pas toujours vouloir dire que tu sais, on change vers le féminin ou vers inclusif, mais souvent ça fait qu'on lâche le masculin, l'emporte assez vite parce que ça correspond même pas nécessairement avec qui il s'adresse. Un peu comme on peut parler du je ou du vous, tu sais, ou tu, etc. Mais est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? Mais c'est un débat aussi à avoir sur OK, comment je veux communiquer avec les gens, c'est quoi la relation que je veux créer avec eux? Puis c'est ça qui va déterminer comment après on va s'adresser, est-ce qu'on va aller vers du inclusif ou pas, selon le domaine, selon la clientèle.
Ouais, puis je pense que t'sais, aussi, comme on parlait un peu tantôt des stéréotypes qu'on apprend à l'école, puis tout ça, t'sais, y a, au niveau symbolique, de juste utiliser des exemples qui sont un peu moins genrés, ou t'sais, des exemples qui sont plus inclusifs aussi des différentes réalités de différentes personnes. T'sais, ça fait partie. Je trouve qu'on en parle moins, on parle vraiment plus de la mécanique des termes puis des mots, puis on parle un peu moins aussi de l'écriture, qui est comme beaucoup plus que simplement mettre des mots une à la suite de l'autre, mais vraiment. De réfléchir à qu'est-ce qu'on peint avec nos mots, hein? Quelle réalité on montre avec nos mots. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans d'être vraiment conscientisé à ça qui est important.
Ouais, puis d'être dans l'intention, tu sais, de pas juste essayer d'aller comme répondre à OK, en ce moment, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est quoi mon intention, moi, de communication? Que tu sais, l'écriture, ça reste un des. Le but, ça reste d'être un échange, de rentrer en interaction avec les gens. Faut avoir la réflexion avant de qu'est-ce qu'on transmet. De la même façon que tu sais, inclusif, ça m'est arrivé là, en agence là, quand je travaillais avec des mandants en agence de dire ben là les images que vous avez utilisées stock, ça manque un petit peu là, tu sais, de variété, mais c'est le même souci. Est-ce que dans mes exemples justement si je fais du storytelling, si est-ce que je suis assez inclusif, est-ce que je peins justement un tableau assez varié puis inclusif ou si je suis juste en train de créer une seule réalité à
Ouais, c'est
laquelle tout
ça.
le monde devrait essayer.
Monogame,
Ouais.
homme-femme, famille nucléaire parfaite, etc. Puis non, je trouve ça super intéressant parce que. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi la distinction entre féministe puis au féminin, où au féminin devient vraiment très essentialiste de qu'est-ce qu'on veut dire par femme, tandis que féministe peut venir vraiment ouvrir juste à d'autres réalités que celle qui est comme la réalité standard, entre
Ouais.
guillemets, hein, puis standard pour juste dire le paradigme standard dans lequel on évolue. Puis je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de T'sais, les mots créent notre réalité ou dupliquent notre réalité. Fait que quand on crée des différentes réalités avec les mots, ben souvent, ben ce qu'on va vivre va se mouler à ça aussi d'une certaine façon, là. Fait que c'est super important, là. C'est quoi ta meilleure, tu sais, comme là en ce moment, comment tu t'as dit que tu travailles en accompagnement, mais tu fais aussi des textes. C'est quoi, comment tu travailles avec tes clients en ce moment là? Puis
Ben,
est-ce
moi,
qu'il y a
j'ai.
comme des nouvelles façons de faire qui s'en viennent?
Ouais, ben, en fait, là, en ce moment, ce qui s'en vient, c'est que je vais offrir de plus en plus de soutien pour les lancements. Fait que je vais avoir des offres tranquillement là, qui vont sortir cette année pour permettre à tout le monde de bien. Ben, bien, j'aime pas le mot bien, là, mais tu sais, de planifier un lancement. J'aime beaucoup là, mon univers. De ma marque, c'est vraiment tout au niveau conte de fées, tout ça, je m'amuse avec ça. Fait que de passer dans le fond d'un lancement qui est angoissant à féerique, tu sais, comment on fait ça
Ouais.
pour avoir, au lieu d'un feeling dégueu là, pendant puis à la fin de ton lancement, un sentiment vraiment plus de légèreté, puis il y a vraiment des systèmes qu'on peut mettre en place pour rendre ça plus facile. Oui, au niveau des tunnels de vente, mais au niveau tout de ton, tu sais, ton filet de sécurité, toute l'organisation. Puis je travaille beaucoup avec ça, avec mes clientes, de comment je gère mon système nerveux pendant mon lancement. C'est pas juste d'être dans le OK, je crée du contenu, puis OK, je sais, ma page de vente est belle, puis c'est pas mal plus compliqué que ça, un lancement. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. J'ai une place qui va ouvrir pour un accompagnement vraiment one-on-one pour quelqu'un qui veut pas engager encore de directrice marketing, mais qui a besoin de quelqu'un qui travaille à ce niveau-là là, sur son marketing. Puis sinon, quand je fais du copywriting pour mes clientes, c'est mon copywriting de licorne que j'aime vraiment. Fait que ça, c'est. J'ai tout bâti un processus. Ouais, c'est fun.
J'aime que c'est vraiment girly tes affaires, tu sais, mais en même temps, c'est comme.
Ah ouais! Puis tu sais, je joue avec ça. J'aime ça comme ramener. En fait, j'ai envie qu'on réutilise cet univers-là que, tu sais, on a grandi là-dedans, les princesses Disney, patati patata, mais qu'on le remette à notre sauce à nous. Fait sans
Ouais.
patriarcat, tu sais, ça donne quoi? Puis avec le copywriting de licorne, ce que je fais, c'est que j'écris, dans le fond, tout ce que tu as besoin, mais en une journée, puis tu reçois, exemple, ta page de vente à la fin de la journée. Fait que ce qui est trippant, c'est que c'est un service
Wow.
où tu procrastines depuis je ne sais pas combien de temps ta page d'accueil, bien là, let's
C'est
go,
fait.
en une journée, c'est fait. Évidemment, il faut que tu répondes à plusieurs questions avant de ma part,
Ouais.
mais tout est automatisé, tu as un beau portail Notion pour remplir. Fait, après, tu gardes toutes ces réflexions-là sur ton entreprise que je te demande de faire pour écrire pour toi.
Nice.
Pas mal ouais.
Très
C'est le fun
cool.
comme
Ben,
ça.
Maude, c'est vraiment intéressant tout ça. Où est-ce que tu crées ton contenu, ou du moins, genre, où aimes-tu que les gens te suivent? C'est ça la vraie question.
Et le podcast qu'on a créé avec ma collaboratrice, avec Jessica Girard. Donc, ça s'appelle Sauvagement Sincère. Il y a un épisode par semaine qui sort. Ça, c'est vraiment notre espace où on parle justement d'entrepreneuriat, mais avec le cadre féminin de c'est quoi d'être une femme en entrepreneuriat, puis tous les enjeux là, que ça implique. Sinon, je crée beaucoup de contenu sur Instagram. C'est pas mal la plateforme où j'ai plus de fun. Mais je suis active aussi sur LinkedIn. C'est juste que Instagram, je suis quelqu'un qui aime ça, venir genre en story puis tout ça. Fait que, tu sais, pour apprendre à me connaître puis qu'on puisse échanger, c'est vraiment sur Instagram, là, le plus
Génial.
facile.
Maude, merci, Sophie. C'était vraiment une belle conversation, pleine de licornes et d'étincelles, mais aussi de féminisme et d'antipatriarcat. Fait que post-patriarcat, j'aime utiliser post au lieu de
J'aime ça.
anti. Et ben, je suis sûre qu'on va avoir plein de conversations dans la prochaine année. Alors, je te souhaite vraiment le meilleur. Là, pour celles qui n'ont pas encore catché, on enregistre ça au tout début de 2024.
Ouais.
Et merci d'être venue sur le podcast. Merci de
Merci
nous avoir
encore pour
inspirés.
l'invitation. Ça fait plaisir.
Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.